Woody Allen a dit « En Californie, on ne jette pas nos poubelles, on en fait des séries télé. » Ou peut-être des épisodes de podcast. Allez, c'est parti pour Moi, prof et manchot. Bonjour, bonjour chers auditeurs, c'est Sylvain et voici un nouvel épisode de ce podcast Moi, prof et manchot. Aujourd'hui, on va conclure avec cette mini-série de Mon rêve américain. Je pense que je pourrais encore faire plein d'autres épisodes derrière en parlant de petits détails à droite et à gauche. Mais bon, il faut bien passer à d'autres thèmes par la suite et j'aimerais bien passer sur un thème environnemental suivi d'un thème antarctique pour les prochains épisodes. Donc, comme je le disais il y a quelques secondes, on va clôturer ce sujet des différences entre la culture et la vie américaine et la vie et la culture française. Aujourd'hui, je vais parler de quelques particularités. Au départ, je pensais peut-être être du grand Ouest américain, du côté Pacifique. Mais à vrai dire, je pense que ça doit se retrouver également dans d'autres États. De nouveau, j'ai pas eu l'occasion de voyager énormément aux États-Unis. J'y suis venu pour vivre. J'ai fait quelques vacances à droite et à gauche, mais pas suffisamment pour me rendre compte des différences entre les États. Donc, je vais continuer à parler comme si c'était un peu le cas pour la majorité de l'Ouest américain et définitivement la Californie. On avait terminé l'épisode dernier sur le patriotisme, l'élan de patriotisme des Américains. Vous avez pu voir, si vous me suivez sur Instagram, que j'ai posté quelques photos de ce patriotisme, en fait, exacerbé, je dirais, où on voit des drapeaux américains plantés sur les devants de la maison, sur les façades de maison. J'ai fait ces photos rien qu'en 20 minutes de course à pied. Je suis sorti pour faire une petite session de course à pied, et j'ai fait des arrêts à peu près tous les 5 minutes, même pas tous les 2 à 5 minutes, pour prendre des photos, puisqu'en fait, oui, il y avait facilement plus d'une dizaine de maisons sur ma route avec des drapeaux américains ou des représentations du drapeau américain. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort. À vrai dire, je me suis habitué, j'y fais plus attention, mais je sais que quand on arrive pour la première fois ou qu'on est touriste, c'est vraiment quelque chose qui frappe. Et puis aussi, on s'en rend compte des fois avec les voitures. Il y a des fois des gros pick-up, les fameuses grosses voitures américaines, avec un drapeau qui est fixé sur le derrière et qui flotte comme ça. La plupart du temps, des drapeaux américains. Des fois aussi, ils font avec le football américain, avec leur équipe de football favorite. Mais vraiment, oui, c'est le drapeau américain est assez omniprésent dans le paysage, dans la ville américaine. Donc comme on finissait de parler l'épisode dernier sur le patriotisme, et je vous avais aussi parlé de cet aspect très de contact direct en fait ici avec les Américains, il y a une autre caractéristique de la personnalité des Américains, je trouve c'est vraiment, il faut toujours pas être actif. Il y a vraiment une impression générale que les Américains soient actifs, ils sont toujours en train de faire quelque chose, ils ont toujours des projets en tête, toujours en train de travailler, toujours un plan sur la comète en fait. Il y a vraiment très peu de place pour le repos. De nouveau, c'est une vision générale que j'ai, bien sûr, il y a des exceptions, et aussi peut-être une vision qui est un peu entachée par le monde académique qui est réellement comme ça, ou dans le monde académique, il faut toujours être en train de bosser, on n'a pas le temps pour les loisirs, on n'a pas le temps de dormir quasiment, il faut toujours être en train de réécrire des articles, en train de faire des publications, en train de travailler en laboratoire, de sortir des résultats. Mais même sur le côté, le monde non académique, je dirais, il y a un peu cette impression que les gens sont toujours actifs, ils courent à droite et à gauche, que ça soit pour le boulot, que ça soit pour les courses, pour les enfants. Et c'est vrai que c'est un parallèle qui peut être un peu fait avec la France, puisque en France on est aussi actif, comme dans tout pays, mais c'est vraiment plus exacerbé, en tout cas cette impression d'être à 100%, à 100 à l'heure, c'est vraiment un peu plus fort, je trouve, ici. Donc c'est une des dernières caractéristiques peut-être culturelles qui m'avait choqué très rapidement depuis que je suis arrivé ici aux États-Unis. Sinon, je voulais parler vite fait aussi un peu des maisons. Les maisons, en tout cas, au niveau de la Californie, sont généralement peu anciennes, puisque la Californie a une histoire très courte de à peu près 200 ans. Et l'endroit où on vit dans la vallée centrale a été peuplé très lentement, en fait. Et donc, la plupart de l'expansion urbaine a lieu réellement actuellement. Et donc, la plupart des maisons ont été construites dans les 20-30 dernières années. Et donc on parle d'anciennes maisons facilement ici quand elles ont à peu près 30-50 ans. Et c'est vraiment quelque chose de très choquant par rapport aux bâtiments qu'on a en Europe, en France, puisque on a des bâtiments qui ont plus de 100 ans, et on a vraiment un aspect historique très différent. Ça revient aussi avec l'histoire de... une différence forte entre l'histoire justement des États-Unis, l'histoire de la Californie en comparaison de l'histoire avec la France. Les gens, par exemple, cherchent une identité plus forte ici. Il y a beaucoup de tests qui sont offerts, bien sûr, de manière payante, pour vérifier entre guillemets, notre composition génétique où 50% par exemple, de mon bagage génétique viendrait de France, 30% viendrait d'Angleterre, 15% viendrait d'Italie et 5% par exemple des îles Fidji. J'invente un truc comme ça, mais c'est vraiment des choses qui intéressent beaucoup de gens de savoir un peu leur passé. Il y a vraiment une quête d'identité. Et donc, pour revenir aux maisons, puisque je fais un petit aparté, bah les maisons sont vraiment plutôt récentes. Et même au niveau de la construction, c'est assez intéressant puisque elles sont construites à partir de bois, puisqu'on est dans une zone qui est reconnue comme sismique, même si bon, nous, on est quand même encore assez loin de la faille de San Andreas, qui est la plus grosse faille tectonique qui est dans le coin. Les régions les plus touchées sont du côté de San Francisco et de Los Angeles. En vallée centrale, on a de la chance d'être plus protégé grâce à un gros paquet de sédiments sur lequel on réside. Mais bon, malgré tout, toutes les constructions d'habitation doivent être faites avec des mesures sismiques. Et donc, elles sont construites en bois. Bien sûr, on a la charpente, mais la majorité de la structure est en bois. Les murs sont creux. Et c'est vraiment. Ça donne un peu cette impression de maison un peu en papier ou de maison. Pas préfabriqués ou un peu qui ne vont pas durer sur le long terme, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a choqué. Les briques qui apparaissent sont simplement des briques de décoration, elles ne font pas partie de la construction de la maison en elle-même. Des parpaings ou des trucs comme ça, non, c'est vraiment pas utilisé. Mis à part pour tout ce qui est bâtiments lourds, les bâtiments administratifs, les bâtiments scolaires. Là, à ce moment-là, comme ce sont des zones de refuge, ce sont généralement des bâtiments en construction beaucoup plus solides. Une autre chose au niveau des bâtiments qu'on m'a soufflé récemment, en fait, et dont j'avais oublié, je m'étais habitué, c'est le fait qu'ici, il n'y ait pas de volets, il n'y ait pas de persiennes. En général, toutes les fenêtres ont des stores. Quand on loue les maisons, bah, généralement, ou quand on arrive dans une maison, la qualité des stores est plutôt pas terrible. C'est généralement du premier prix. Et donc, ça laisse filtrer beaucoup de lumière, ça se casse facilement. Moi, de mon côté, c'est ce qui avait été le cas dans les trois premières maisons que je louais. Et avec la maison qu'on a achetée l'année dernière, bah, celle-ci, par contre, était avec des stores intégrés dans les portes et les fenêtres, qui sont des stores de meilleure qualité, des rabats beaucoup plus durs. Mais malgré tout, ça laisse quand même filtrer une partie de la lumière. Je pense qu'il doit y avoir facilement 25% de la lumière qui passe. Donc j'ai mis plusieurs années à m'adapter. Au départ, j'étais vraiment. Il me fallait l'obscurité pure et dure, parce que j'y étais habitué. Et au bout du compte, pour finir, maintenant, je suis habitué à dormir avec un peu de clarté. Je ne sais pas par contre pourquoi c'est fait de telle sorte. Ayant eu une discussion avec un groupe d'amis cette semaine, c'est des choses qui s'observent aussi par exemple en Norvège, dans d'autres pays. De nouveau, ça doit être une différence culturelle et ça vaudrait le coup, si quelqu'un connaît la raison, de m'expliquer pourquoi bah, les fenêtres ou les volets sont très très peu fréquents ici. Une caractéristique essentielle aussi des maisons qu'on retrouve ici à Merced, mais ailleurs aussi, toutes ces maisons qui ont moins de 30 ans, je dirais en fait, et peut-être encore un peu plus vieilles, ont toutes un système d'irrigation intégré, des arroseurs automatiques. Donc en fait, quand ils construisent la maison, que ce soit sur le devant de la maison, sur le derrière de la maison, il y a un système d'irrigation qui traverse le sol, qui est généralement souterrain, 15-20 cm de profondeur, avec des tubes en PVC qui sont connectés à des arroseurs, et tout ça est connecté à une centrale, en fait, un petit compteur qui est généralement trouvé dans le garage ou sur le côté de la maison. C'est simplement pour que chaque jour, ou tous les 2 jours, les 2-3 jours, il y a un arrosage automatique qui se fait des pelouses. L'un des intérêts majeurs de ce système, c'est bien sûr d'éviter que les pelouses et les jardins se sèchent et donc deviennent un risque de potentiel d'incendie, puisqu'on a des températures assez fortes durant l'été avec une sécheresse associée. Donc, bien sûr, ça peut représenter un risque de feu. Par contre, l'un des problèmes majeurs de cette utilisation de système d'irrigation automatique, c'est que la plupart des gens, en fait, ne font pas suffisamment attention à l'eau qu'ils utilisent pour l'irrigation de leur pelouse. Et donc, ils ont tendance à utiliser trop d'eau. On voit souvent de l'eau qui déborde sur les trottoirs, qui s'en vont directement à l'égout et qui malheureusement est perdue. Alors qu'il faut simplement de temps en temps vérifier que son système d'irrigation ne fuit pas et que aussi, bah, en fonction de la saison, on donne plus ou moins d'eau à son jardin, à sa pelouse. Ce système d'irrigation est quelque chose qui demande un peu d'expérience, un peu de pratique, mais au fil des ans, on commence à s'habituer et c'est vrai que maintenant, je tendance à bien dominer avec la maison qu'on vient juste d'acheter. Par exemple, j'ai redésigné un petit peu les différentes têtes d'arroseurs automatiques pour justement limiter un peu la consommation d'eau et l'adapter en fait au type de sol et aussi au changement de saison. Finalement, je terminerai cet épisode de podcast par parler de deux choses qui concernent les véhicules, même si de nouveau je ferai un épisode sur la conduite plus tard dans la saison. La première chose, c'est les camions poubelles. C'est vraiment l'une des premières choses qui m'avait surpris avec aussi la camionnette du facteur qui est très particulière. D'ailleurs, j'essaierai de mettre une photo de la camionnette du facteur sur Instagram et aussi je mettrai une photo du camion poubelle sur Instagram. Le camion poubelle est très intéressant parce qu'en fait, c'est tout automatisé. Il y a quelqu'un qui conduit et dans la cabine, en fait, là où bien sûr il a accès au volant, au changement de vitesse, il a aussi une console qui lui permet d'agripper les poubelles qui sont toutes standardisées. Et c'est en fait, ils ont un système de crochet qui va attraper les poubelles et qui va les lever et les vider dans le conteneur du camion poubelle. Donc c'est vraiment très très efficace et ça n'occupe qu'une seule personne, le conducteur, qui gère aussi le vidage des poubelles. Et il n'y a personne d'autre pour récupérer, par exemple, comme en France, il n'y a pas d'autre personne pour aller chercher les poubelles et les balancer dans le camion poubelle. Et puis oui, pour finir, si vous venez en Californie et que vous cherchez une baraque à frites ou par exemple un camion à pizza, vous n'en trouverez pas, il y a très peu de chances que vous en trouviez. Vous trouverez facilement peut-être des camions de glace. Il y a aussi des fois des camions qui vendent des cupcakes, ils sont vraiment spécialisés dans la vente de cupcakes. Et dans les grandes villes, ce qui n'est pas trop le cas de Merced, on trouve aussi des camions qui vendent des hot dogs ou des hamburgers. Et aussi, je me souviens à l'est, du côté de New York par exemple, d'avoir vu des camions qui vendaient des pretzels et autres snacks de ce type. Mais le changement en fait radical qui remplace le camion, la baraque à frites, le camion à frites ou le camion à pizza, c'est ce qu'on appelle ici le taco truck, le camion à tacos. Qui est en fait, oui, c'est l'adaptation de la cuisine hispanique à la mode américaine, le fameux Tex-Mex, où on peut aller au taco truck et faire sa demande de plats de tacos avec différents types de viande. Donc les tacos sont faits avec des petites tortillas qui font à peu près une quinzaine de centimètres, 10-15 centimètres de diamètre, et qui sont faits de farine de maïs. Et généralement, on va mettre dessus différents types de viande, et puis on peut rajouter un peu des oignons. Et puis aussi, on peut demander par exemple une quesadilla. Donc, généralement, une quesadilla, c'est une tortilla qui est plus grande, qui fait plus de l'ordre de 20 cm plus ou moins, qui est faite, elle, de maïs de blé, généralement. Et la quesadilla va être faite avec de la viande. Il y aura aussi du fromage, et puis de l'avocat, et possiblement des épices. Et je me rends compte que je parle de la tortilla, mais en fait c'est quelque chose de très commun pour moi. Mais bon, pour vous donner une idée, la tortilla c'est donc la crêpe mexicaine, qui est bien sûr plus salée. Voilà, j'avais oublié de préciser ça. Et aussi, si vous avez envie d'un sandwich au niveau du taco truck, vous pouvez demander ce qui s'appelle une torta, qui est en fait l'équivalent d'une quesadilla, mais avec un pain. Donc ça vous fait un sandwich avec de la viande, du fromage, de l'avocat, et puis des différents épices qui peuvent être rajoutées, des oignons aussi. Et si vous demandez aussi le fameux piment, le jalapeño, qui est le piment mexicain. Donc voilà, c'est notre équivalent local ici des baraques à frites ou des baraques à pizza. C'est les fameux taco trucks que vous trouvez à tout coin de rue par ici. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de podcast. J'espère que cette mini-série vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me commenter ces questions sur Instagram, à me laisser aussi une note, une évaluation et un commentaire sur Apple Podcast pour faire apparaître ce podcast un peu plus dans les classifications. Et sinon, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dédié à l'environnement. Allez, salut, salut! Ça vous a plu? Cool! Alors partagez ce podcast et allez sur l'application Apple Podcast pour laisser une note 5 étoiles et un commentaire. Par avance, je vous en remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, salut!